Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport.
Bonjour à tous, c'est Martin Mosnier, journaliste à Eurosport aussi.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission qui n'aurait jamais existé si la personne qui est à côté de moi dans ce studio aujourd'hui n'existait pas non plus. Je suis très heureux de te retrouver, Martin, et j'ai l'impression que tu es très heureux de retrouver ce qui est ton petit bébé.
Ce qui a fait ma légende.
Ce qui a fait ma légende. Bah ouais, c'est mon bébé, tu t'en occupes. Tu t'en occupes bien. Mais j'écoute les émissions et je suis pas formel en fait. Tu t'en occupes, donc c'est bien, tu le fais grandir, tu le nourris. Ouais, je suis content d'être là, je suis content de te retrouver, Julien. Et
pour ceux qui nous découvrent, qui nous ont découvert récemment ou cette saison, Martin est à l'origine de cette émission, Martin est à l'origine du Mercato. Martin est à l'origine du monde.
Je suis à l'origine en tout cas du journalisme, quasiment. Je suis à l'origine d'Eurosport, je suis à l'origine du monde, c'est vrai. Et quelque part sans moi, tu n'existerais pas, Julien.
Et Martin est à l'origine de la modestie aussi, également.
Exactement. En revanche, je ne suis pas à l'origine de ta veste de magicien avec laquelle tu es venu à Eurosport ce matin. Et, là, et heureusement, parce que Julien est venu avec une petite veste Bordeaux en velours, ça m'a fracassé les yeux.
Donc je suis très fier.
Je suis aveugle. Depuis que je suis aveugle, donc là, je fais l'émission en aveugle, l'émission dans le noir.
Et en patriote aussi.
Et en patriote, effectivement, un petit drapeau bleu-blanc-rouge.
Bon, Martin, on n'est pas dans la stream team ici, donc on fait des intros courtes.
Ok.
On se concentre sur le fond.
Okay. Ah, ça me change de Maxime, du coup.
Ok. Est-ce que tu peux nous évoquer le sommaire, s'il te plaît?
Je peux égrainer le sommaire, effectivement. On va parler de la clause libératoire de Haaland. C'est sorti dans la presse, c'est sorti dans The Athletic, je crois. Et une clause de 200 millions d'euros dégressive. Voilà, ce sera notre premier sujet, Julien. Ensuite, on parlera de quoi, d'ailleurs? Je ne me souviens plus.
On parlera du Paris Saint-Germain et de sa défense, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures ces dernières semaines. Et il y a un joueur qui est ciblé par le PSG depuis le début de l'été, c'est Milan Skriniar. On se posera la question, est-ce que le PSG doit foncer sur Skriniar dès cet hiver?
Et puis on fera quelque chose que j'aime bien, c'est un petit top flop des recrues de l'été en Ligue 1. Top parce qu'on est sympa, puis flop parce qu'on est des ordures. Donc moi j'aime bien, je préfère le flop.
Oui, bah oui, les gens l'auront compris de toute façon.
Ouais, de toute façon. Et on terminera avec, Xavi Simons.
Xavi Simons qui fera l'objet de notre rubrique que vous connaissez bien maintenant. Pourquoi on n'y croit pas? Parce que Xavi Simons a une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de revenir au Paris Saint-Germain. Et donc, on vous expliquera pourquoi nous, avec Martin, on n'y croit pas.
On terminera par le Merca Quiz. Et donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines et demie pour la fin de cette émission. Voilà. J'espère que vous n'avez rien prévu. J'espère que si vous êtes en voiture, que le trajet est long, qu'il y a des bouchons et que vous attendez une petite goutte d'essence, on sera avec vous tout du long, je pense.
On rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes.
Professionnel.
Vous tapez Eurosport Football Club et puis vous retrouvez toutes les émissions Mercredi Mercato, FC Stream Team et Tour d'Europe avec Cyril Morin.
Et si vous voulez voir la chemise de Julien boutonnée jusqu'au menton.
Toujours,
façon un peu hipster, mais hipster des années 2000, donc il a 20 ans de retard. Rendez-vous sur Eurosport.fr pour les meilleurs moments de l'émission
en vidéo. Voilà, on peut y aller, Martin?
On peut y aller. Et j'ai une tendance à me pencher avec ces nouveaux micros-là, oui. J'aime pas du tout. Je vais rester comme ça, voilà.
Absolument.
On remercie Adrien quand même aux manettes.
Oui.
Et Quentin au visuel.
Ouais, Quentin, c'est accessoire. Erling Haaland, Martin, une clause libératoire à fixer à 200 millions d'euros pour 2024. C'est l'information révélée par The Athletic la semaine dernière. On l'imaginait en début de saison. Finalement, Manchester City avait démenti. The Athletic nous dit que cette clause existe et on va se poser une question simple. Est-ce que ça change quelque chose à court, moyen, long terme pour Erling Haaland, Martin?
Alors déjà, moi, cette clause, elle ne me surprend pas parce que dans la galaxie des joueurs qui étaient sous le contrôle de Mino Raiola, il y a deux choses. Déjà, il y a toujours des clauses un peu bizarroïdes, c'est-à-dire que Mino Raiola et son équipe inventait tout le temps des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, il n'est pas allé au Real Madrid parce que Florentino Pérez avait refusé qu'au bout de la deuxième saison, de la deuxième année de son contrat, bah, il y ait une clause libératoire de 150 millions d'euros pour Haaland. Pourquoi il fait ça, Mino Raiola ? Parce qu'il ménage toujours une porte de sortie à ses joueurs, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands ou qu'ils soient énormes comme Erling Haaland, ça ne change pas grand-chose. Ils ont la bougeotte, on prend Pogba, on prend Zlatan, De Ligt, Donnarumma, voilà, ils ont tous quitté des gros clubs, il n'y a que Verratti, hein, c'est à peu près la seule exception. Et donc Mino Raiola, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il a sans cesse ce souci de mettre en place, d'établir toutes les conditions pour un départ. Quel que soit le club, quel que soit le joueur. Donc moi, cette clause, elle ne m'étonne pas. Et ce qui ne m'étonnerait pas non plus, bah, c'est qu'Erling Haaland n'aille pas au bout de son contrat avec Manchester City, alors que ça se passe très bien, alors que Manchester City n'a pas besoin d'argent. Mais Mino Raiola était un roublard. Son équipe poursuit son travail. Et ce qui compte pour eux, c'est faire de l'argent, c'est donc faire des transferts. Et je pense que les sirènes du Real Madrid vont très vite sonner pour Haaland.
Enfin, très vite, sous deux ans, on va dire.
Real Madrid, pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, dans cette clause, il y a une autre petite clause, justement, qui explique qu'elle n'est pas valable, justement, pour les gros clubs anglais, en tout cas pour les clubs anglais. Et que donc, forcément, ça écarte beaucoup de prétendants possibles, parce que des clubs qui auront les moyens, en 2024, de se payer Erling Haaland, bah, il n'y en a pas 150.
Non.
Il y a le Real Madrid et les clubs anglais. Et peut-être le Bayern.
Et peut-être le PSG aussi.
Et peut-être le Paris Saint-Germain. J'avais écarté le Paris
Saint-Germain.
Donc ça en
fait beaucoup, mais merci, t'as bien préparé l'émission, en tout cas ça fait plaisir.
Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la politique de Raiola, Erling Haaland, c'était le joueur idéal finalement refaire cette politique-là, parce que c'est l'un des deux joueurs avec Kylian Mbappé à pouvoir choisir ses destinations, à pouvoir établir son plan de carrière. Et d'ailleurs, il avait un vrai plan de carrière. C'est son père qui l'a révélé dans un documentaire qui est sorti il y a deux semaines, où il disait que Manchester City faisait partie de son plan de carrière, contrairement au Paris Saint-Germain. On peut très largement imaginer que le Real Madrid fait également partie de son plan de carrière, parce que finalement, le Real Madrid, c'est l'aboutissement, c'est le dernier club, le plus grand club du monde, et c'est le club que vous devez, dans lequel vous devez vous imposer pour avoir la carrière à la hauteur de vos espoirs.
Et puis, il faut rappeler quand même que Erling Haaland, il a quitté Dortmund l'hiver dernier, parce qu'il y avait une clause qui semblait incroyable quand même. On n'y a pas cru quand la presse l'a révélé. Je crois que c'était 60 millions d'euros, c'est ça. Hein. Donc un départ, si un club posait 60 millions d'euros sur la table, sachant qu'il en valait déjà
beaucoup plus.
J'allais dire le double,
mais peut-être même le triple.
C'est peut-être même le triple. Donc si Raiola était capable de faire ça, il ne faudra pas s'étonner de voir Haaland partir du Real Madrid pour 200 millions d'euros dans deux ans. Moi, ça me semble... Alors, on ne l'a pas rappelé, mais la clause donc est dégressive, c'est-à-dire qu'elle est de 200 millions d'euros en 2024, donc dans un an et demi, et après, chaque année, elle perd 50 millions d'euros. Donc 2025, ce sera 150, 2026, ce sera 100 millions d'euros, et le contrat s'achève en 2027 pour Erling Haaland. Donc très honnêtement, bon, à voir comment... Il n'a que 22 ans, hein, me semble-t-il, Erling Haaland. Donc à voir comment... Enfin, on ne peut jamais tirer de plan sur la comète, de toute façon, dans ce sport-là. Mais c'est vrai que tu l'as dit, en 2024, Karim Benzema aura 36 ans, si je ne raconte pas de bêtises. Alors il s'entretient très bien, mais il n'est pas éternel. Kylian Mbappé, il ne veut pas jouer les pivots. Donc de toute façon, même s'il est au Real Madrid, il ne veut pas être pivot. Donc il lui faudra un pivot. Erling Haaland, ça semble pas mal. Aujourd'hui, en tout cas, à leur H, s'il fallait parier sur Haaland au Real, moi je mettrais un petit billet.
Oui, et ça peut expliquer aussi pourquoi le Real ne s'est pas franchement excité cet été, malgré l'échec Haaland et surtout malgré l'échec Mbappé, parce que Florentino Pérez a suffisamment d'expérience pour savoir que finalement les joueurs finissent par venir vers lui sans que le Real ait besoin d'aller vers ces joueurs-là. Alors certes, il aurait certainement beaucoup aimé les avoir plus tôt, que ce soit Mbappé ou Haaland. 2024, ça reste après-demain. Et puis...
Puis il y a une équipe qui est championne d'Europe aussi. Donc, il n'y a pas de déclin du Real Madrid pour le moment. Il n'y a pas, à s'affoler.
C'est d'ailleurs ce qu'il a dit en marge de la cérémonie du Ballon d'Or. Il a été interviewé par la Cadena Ser. On lui a évidemment posé la question Erling Haaland sur cette fameuse clause. Il a dit qu'il ne répondrait pas et que de toute façon, le Real Madrid avait déjà les meilleurs joueurs du monde. Ça montre quand même qu'ils se sont plutôt en position de force là-dessus.
Oui, et pareil sur Kylian Mbappé, on l'a interrogé, il a dit « Moi, je regarde plus qu'il y a sur Kylian Mbappé, de toute façon, on a Rodrigo et Vinicius. »
Voilà.
Bon, j'aime beaucoup Rodrigo, j'aime beaucoup Vinicius.
On ne parle pas tout à fait du même joueur.
Voilà, là, c'est des propos politiques. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur la question ou...
J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour.
On a été bon, non on peut... Et si on s'arrêtait là
Non, alors non. Attention de ne pas casser les micros quand même.
Ouais,
ni les oreilles d'Adrien Yo.
Ouais, c'est vrai qu'il m'a dit de ne pas parler trop fort, hein, parce que sinon ça lui fait mal au casque.
Donc, parce que les gens nous écoutent dans leur voiture, donc finalement.
Ah, ceux qui ont des oreillettes peut-être.
Excusez-moi, pardon, désolé.
On passe au deuxième sujet.
Deuxième sujet, Paris sans défense, entre guillemets. Faut-il foncer sur Skriniar? Pourquoi Paris sans défense? Parce que ouais. Plusieurs joueurs ont connu des blessures, plusieurs joueurs de l'arrière-garde. Alors il y a eu Presnel Kimpembe qui, selon l'équipe, s'apprête à revenir dans les prochains jours, notamment probablement la semaine prochaine. Il y a aussi la blessure toute fraîche de Danilo Pereira, qui est un joueur important dans leur rotation, notamment pour compenser les absences. Et celle, plus importante certainement, de Nuno Mendes, l'arrière-gauche, qui lui, et comme son compatriote d'ailleurs, devrait être absent pour encore 3 semaines, 1 mois. Donc ça va rapidement nous amener jusqu'au Mondial, et qui dit Mondial dit ensuite hiver et Mercato. Donc Paris doit déjà penser à renforcer ce secteur qui est maintenant le secteur faible du Paris Saint-Germain. Il y a cette solution Milan Skriniar qui était déjà envisagée cet été, qui n'a finalement pas été au bout. Martin, est-ce que Paris doit revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar qui est en fin de contrat en juin prochain?
Alors tu parles des blessures qui effectivement soulignent ce problème-là, mais au-delà des blessures, il y a aussi pour moi un problème de niveau, de régularité et de fiabilité. Parce que si on prend les 3 défenseurs centraux titulaires, enfin même au fond il n'y en a quasiment que 3 dans cet effectif-là, et bah Kimpembe, pour des raisons sportives, Ramos pour des raisons de santé, Marquinhos, pour ce qu'on voit depuis un an et demi, voilà, on n'est pas sur une fiabilité à 100% sur ce trio-là. Donc non
on est,
seulement...
On n'est plus du tout sur le niveau qu'on avait connu avec Thiago Silva, Marquinhos,
exactement. Exactement. Qui... Donc c'est devenu un point faible pour moi. Et non seulement il faut recruter pour étoffer l'effectif à ce poste-là, mais il faut recruter une pointure. Il faut recruter un mec potentiellement titulaire. Il faut recruter quelqu'un qui soit capable de faire une saison en entier dans la défense du Paris Saint-Germain. Donc il ne faut pas aller chercher un jeune, donc il ne faut pas aller chercher un Abdou Diallo ou je ne sais pas quoi. Il faut une référence. Et c'est pour ça que Skriniar me semble être un profil non pas intéressant, mais un profil sur lequel il faut se jeter. Parce qu'on a eu un été aussi, un été de défenseurs centraux où ils sont tous partis. Donc il va falloir les... Et ce sont des mecs qui sont aujourd'hui indélogeables. On pense à De Ligt, à Koundé, à Koulibaly, à Lisandro Martinez, à Fofana, même Diego Carlos, Botman, Aguerd, dans un second marché, un marché français. Mais
ou
même,
ex-français.
Voilà, je veux dire, il y a quand même un paquet de défenseurs centraux qui ont changé d'écurie. Ils ont été remplacés, donc c'est pareil. Il y a eu une émulation à ce poste-là, qui a été le poste le plus recherché cet été, et Paris a un coup de retard. Donc il ne reste pas grand monde, il reste Skriniar. Donc s'il y avait quelqu'un sur lequel il fallait mettre toutes ses forces, c'est sur lui, d'autant qu'il arrive en fin de contrat en 2023. Donc c'est le moment d'y aller là pour Paris.
Oui, d'autant que le PSG aurait pu avoir des opportunités ces derniers mois, ces dernières années, avec des défenseurs d'envergure internationale.
Bah, tous ceux quasiment dont j'ai parlé.
Alaba aussi, ouais. Rudiger également.
Et Koulibaly qui a été pendant des années.
Koulibaly, absolument. Tu parlais des joueurs fragiles. On peut également citer Juan Bernat, qui aujourd'hui est le titulaire puisque Mendes est blessé, qui n'est pas le joueur le plus fiable physiquement. Donc Paris va être obligé de se reporter finalement sur le seul joueur qui est entre guillemets accessible parce qu'en fin de contrat en juin prochain et surtout qui a le niveau pour s'installer durablement en défense, c'est Milan Skriniar. Le seul problème, c'est que l'Inter a entamé des négociations pour prolonger son contrat et a d'ores et déjà fait savoir via la Gazzetta que même si prolongation il n'y a pas, il n'y aura pas de départ non plus cet hiver. L'Inter préférerait perdre Milan Skriniar gratuitement en juin prochain, mais le conserver notamment pour la Ligue des Champions et pour le championnat, plutôt que de le laisser partir cet hiver pour un montant qui devrait aller entre... Alors on est obligé de donner une fourchette large parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat, entre 35 et 60 millions d'euros.
Mais du coup, il va rester qui Alors il restera peut-être un peu de... Voilà, c'est peut-être sur un marché français, mais où tu quand même, tu baisses d'un ton. Je pense à Badiachil, je pense à Disasi, qui sont très bons, qui sont des monégasques. Mais est-ce que ces mecs-là... peuvent titiller les titulaires du Paris Saint-Germain. Il manque pour moi encore un petit peu d'expérience. Peut-être qu'au Bayern, tu as des mecs. Peut-être, je pense à un Benjamin Pavard éventuellement. Mais à un moment, le marché quand même des défenseurs centraux s'est restreint. Paris a besoin de défenseurs centraux. Donc, il n'y a que des bonnes raisons d'aller sur Milan Skriniar. Effectivement, tu l'as dit, l'Inter, ils vont se régaler. L'Inter, ils connaissent les besoins du Paris Saint-Germain. Ils savent que Paris est plein aux as, ou qu'en tout cas, ils sont capables d'aligner des montants absolument colossaux sur des joueurs qui n'en valent pas du tout la peine.
Mais là, finalement, c'est aussi Milan Skriniar qui va se régaler, parce que lui, il a toutes les cartes en main. Il est désiré par le Paris Saint-Germain. Il sait aussi que l'Inter veut le conserver coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, il est très bien placé pour faire monter les enchères, notamment en termes de salaire. Le problème, c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas venu, en tout cas le PSG n'a pas réussi à boucler son arrivée l'été dernier, c'est parce que y a un aspect financier qui doit être maîtrisé au Paris Saint-Germain. Luis Campos l'avait fait savoir lors de son interview à RMC, où il avait assumé, il avait dit qu'il n'était pas satisfait de son marché estival, notamment pour la question de la défense centrale. Et que ça risque aussi de renforcer la petite guéguerre interne entre, d'un côté, Théo Henrique, qui lui doit gérer l'aspect financier, en tout cas qui se concentre là-dessus, et les négociations, et puis Campos qui lui voit plutôt l'aspect sportif.
Mais de toute façon, Skriniar cet hiver, ça doit être une priorité, mais ça va être effectivement très compliqué. L'Inter est plus très loin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tu perds un des patrons de ta défense. C'est difficilement audible pour l'Inter, c'est difficilement audible pour les supporters de l'Inter. Et Paris n'a pas voulu lâcher 60-80 millions d'euros.
Ouais, on a parlé de 50 plus 10, puis 55 plus 10 en toute fin de mercato d'été.
Et je ne vois pas pourquoi ce serait moins cher cet hiver, même s'il se rapproche de la fin de son contrat, dans la mesure où Paris en a encore plus besoin que l'Inter le sait, et donc il n'y a aucune raison de faire baisser les enchères. Donc
finalement, la seule différence, c'est que Paris espérait que ça tienne en défense.
Ouais.
Là, ils se sont rendus compte
mais
que
c'était une évidence.
Évidemment, que ça ne tient pas et qu'il va vraiment falloir passer à l'action. Et si finalement Paris doit n'acheter qu'un joueur cet hiver, c'est Milan Skriniar.
Ouais, mais ça va être très très dur de le faire sortir de Milan. Ouais.
D'autant que, pour conclure, Zhang, le propriétaire de l'Inter, a déjà fait savoir, c'est du off, mais c'est la presse italienne qui nous le dit, qu'il était prêt à s'engager personnellement pour que Milan Skriniar reste à l'Inter.
Donc bon courage au PSG. On passe au troisième sujet. Sujet qu'on aime bien.
Ton préféré.
Voilà, mon préféré. C'est mon préféré. J'avoue que c'est mon préféré. Parce que on est à quoi ? Un quart, un peu plus d'un quart, quasiment un tiers du championnat maintenant. On est à combien ?
11 journées.
11 journées. On est entre le quart et le tiers. On peut faire un premier bilan du marché des transferts de l'été en Ligue 1. Et on va vous proposer notre top 5 classique des recrues qui sont donc arrivées dans les clubs de Ligue 1 cet été, mais aussi moins classique. Le flop 5, c'est-à-dire les 5 pires recrues de l'été en Ligue 1. On va faire des heureux, on va faire des malheureux. On va démarrer, parce qu'on est sympa, par le top, mon cher Julien.
Avec, par le top, c'est pour toi.
Avec le numéro 5, effectivement, c'est pour moi. Et je veux vous parler d'un Anglais de Reims, Balogun, évidemment. 6 buts en 11 matchs cette saison, encore un prêt réussi par Arsenal, comme Saliba qui s'était épanoui à Saint-Etienne, à Nice ou à Marseille. Balogun, il fait énormément de bien au stade de Reims, qui en profite. Alors avec Ito en début de saison, ils ont piétiné la Ligue 1, je crois que sur les 4 premières journées c'était délirant. Ito s'est un peu calmé, Balogun moins. Alors il n'a pas marqué sur les deux derniers matchs, il y a déjà, je crois que d'ailleurs Reims n'a pas marqué sur les deux derniers matchs, donc Reims est complètement déjà otage de Balogun et de son état de forme. Mais voilà, il a marqué la Ligue 1 par ses déplacements, par sa vitesse. Donc c'était évident qu'il figure dans ce top 5 à la 5e position.
Heureusement qu'on devait se limiter à 30 secondes, Martin.
Ça fait 30 secondes. Pile poil, regarde, j'ai le chronomètre.
Quatrième, Mvogo, gardien de Lorient. Lui aussi arrivé évidemment cet été, en provenance d'Allemagne. Il avait été prêté aux Pays-Bas. Ça ne s'était pas bien passé ni en Allemagne ni aux Pays-Bas. Il s'est complètement imposé à Lorient. Il est quasiment le premier relanceur du club. Si Lorient est aussi haut en Ligue 1, c'est notamment grâce à lui. Et surtout, il a une qualité que je trouve fantastique, c'est sa relance à la main. Il est capable d'enclencher des actions à la main. Faites-vous un petit medley, vous verrez, il y a des actions qui sont assez impressionnantes à voir. Donc, il a toute sa place dans ce top 5.
Petit medley de Mvogo, je pense que quand même les gens, ils ont une vie quand même, contrairement à toi, Julien.
Mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment le football,
c'est vrai,
Martin.
C'est vrai, contrairement à moi. En 3, quand même un joueur du PSG, Vitinha, qui a changé beaucoup de choses dans le milieu du Paris Saint-Germain. Il a enfin apporté un vrai pendant à Marco Verratti, c'est-à-dire qu'on est enfin sur un milieu de terrain qui coche les deux cases, à savoir à la récupération et dans la construction du jeu. Et c'est là-dedans que Paris s'était un peu cassé les dents ces dernières années, en recrutant beaucoup au milieu, mais pas franchement toujours en adéquation avec ce qu'il voulait faire. Vitinha a changé une partie du Paris Saint-Germain. Regardez son match face à l'OM. C'était très 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 beau à voir, à la récupération, à la relance. Il lui manque juste un tout petit peu de, parfois de garder à l'esprit la justesse quand il arrive dans les zones dans la surface adverse. Mais sinon, Vitinha, c'est très bien.
Numéro 2, Alexis Sanchez, la recrue de l'OM, la recrue phare de l'OM. Pourquoi ? Parce que c'est 6 buts en 12 matchs, mais parce que c'est aussi une influence colossale sur le reste de ses coéquipiers. On avait des doutes sur sa condition physique. Finalement, il presse plus que quasiment tous les joueurs de Ligue 1. Et puis ça déteint vraiment sur le reste de l'équipe, son importance en Ligue des Champions notamment. S'il n'est pas plus haut, c'est peut-être parce qu'il y a quelques petits échecs. On aurait aimé voir un ou deux buts de plus, notamment.
Numéro 1, l'homme qui a métamorphosé le RC Lens, c'est Brice Samba. L'an dernier, c'était Farinaz et Leca, hein, donc qui se succédaient dans la cage de Lens.
Il y avait un besoin.
Il y avait un vrai besoin parce que aucun des deux ne s'était vraiment imposé. Il y avait un point faible. Samba a complètement comblé ce manque. Aujourd'hui, Lens est la deuxième défense de Ligue 1. Surtout, Lens joue le titre à l'heure où on se parle. Et elle le doit beaucoup à ce changement-là, c'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale qui s'est maintenant engagée entre Samba, Fofana, Openda, et lui, il est extraordinaire dans le but en soi, donc c'était évident pour nous de le mettre en numéro 1.
Et super relance au pied, on parlait de relance à la main.
Exactement.
Super relance au pied.
Exactement.
Flop 5, Martin.
Ouais.
On part de la cinquième position avec un joueur que tu apprécies, Romain Amouma. Arrivé à Ajaccio cet été, ça s'est pas très bien passé pour Romain Amouma. Il y a eu un but, alors c'était le week-end dernier à Brest, si je dis pas de bêtises. Il y a surtout eu beaucoup d'irrégularités et
deux
cartons rouges qui plombent complètement son début de saison. Il était arrivé pour apporter de l'expérience, finalement il pêche un petit peu par inexpérience parfois.
En quatrième, on a placé un joueur dans lequel on misait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir et d'attente. C'est évidemment Corentin Tolisso qui est arrivé du Bayern Munich pour retourner dans son club formateur de l'Olympique Lyonnais. Et ça se passe pas bien. Soit il est blessé, soit il est trop neutre dans le jeu. Il n'apporte pas ce que peut apporter par exemple un Alexandre Lacazette. Je pense que c'est le premier déçu. J'ai très peur, moi, pour la suite de sa carrière, quand on voit qu'il ne s'en sort pas de ses problèmes physiques, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est triste pour Corentin Tolisso, qui nous a quand même fait gagner une Coupe du Monde, on le rappelle, mais qui aujourd'hui est très très loin de son meilleur niveau.
Numéro 3, un autre gardien, Kasper Schmeichel. Alors lui, c'est pareil, il avait un grand vide à combler après le départ de Benitez à Nice. Finalement, c'est tout le contraire. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de boulettes, des erreurs de relance notamment. On se souvient de celle face au PSG qui a coûté très cher. Et puis, comme nos confrères de l'équipe le disaient, il ne fait pas du tout l'unanimité en interne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on parle déjà d'un départ. Ça en dit long sur la demi-saison de Kasper Schmeichel à Nice.
En numéro 2, un flop gigantesque, c'est Minamino. Une titularisation seulement en Ligue 1. Je crois que c'était lors de la deuxième journée. Depuis, il est soit sur le banc tout le match, soit il rentre pour les fins de match. Et on attendait autre chose pour un joueur venant quand même de Première Ligue, de Liverpool, pour 15 millions d'euros. Et ce qu'on voit, c'est un joueur trop léger, notamment dans les contacts, assez brouillon, qui ne prend pas, voire jamais, les bonnes décisions. Bref, pour l'instant, alors peut-être qu'il y aura une période d'adaptation. On se souvient de Golovin quand il est arrivé, et qui a eu du mal, et qui finalement a fini par briller à Monaco. Mais pour le moment, c'est un peu la cata, Minamino.
Et puis, numéro 1, on a mis Mohamed Bayo, Martin, arrivé à Lille.
À l'unanimité. Hein.
Après une saison très encourageante avec Clermont, finalement, il n'y a que deux titularisations, il n'y a aucun but, et puis il y a surtout l'extra sportif. Il s'est fait remarquer pour une sortie nocturne, il a été mis à l'écart. Il y a aussi la question de la méforme physique. Bref, Lille avait investi quand même beaucoup d'argent sur lui et finalement, il ne fait quasiment plus partie des plans de Paulo Fonseca.
Et ben voilà, le top 5, le flop 5, on est bien. Vous pouvez le retrouver évidemment sur eurosport.fr si vous en avez raté. Enfin, après, vous pouvez faire avance rapide. Ou voilà.
Et nous dire aussi si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres joueurs à nous soumettre.
Tout en fait, venez nous chercher sur les réseaux sociaux, notamment ceux de Julien Perea, qu'il nourrit chaque jour avec beaucoup de soin. Pas du tout en fait, hein, t'es pas du tout...
Mais je relais tes papiers, Martin.
Ouais, c'est vrai, ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Mais donc venez nous chercher sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on en a oublié, hein, et sans doute qu'on en a oublié, notamment dans les tops, parce qu'il y a eu quand même du bon.
Des belles surprises.
Ouais, on pense à Jonathan Clauss, à Nuno Tavares, notamment, ou à Mbemba à Marseille qu'on aurait pu mettre. Mais bon, on n'allait pas faire un top 5 de l'OM non plus.
Absolument. Quatrième sujet.
Tout à fait.
Pourquoi on n'y croit pas ? C'est notre rubrique hebdomadaire. Et cette semaine, nous avons choisi de rebondir sur la fameuse clause de départ libératoire, plutôt clause de retour, de Xavi Simons qui est parti du PSG cet été pour rejoindre le PSV.
Ça vanne.
Il a révélé lui-même qu'il avait une clause qui lui permettrait de retourner au Paris Saint-Germain. Ça a été confirmé par la direction du PSV. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas, Martin, et pour plusieurs raisons.
Pour plein de raisons. Bon, déjà, c'est 10 buts, 4 passes décisives en 16 matchs, c'est fantastique, c'est bravo, c'est voilà. C'est avec le PSV, c'est dans le championnat néerlandais. Alors, je n'enlève rien à ce qu'il fait, mais on parle du Paris Saint-Germain, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le PSG ait besoin de lui. Alors, bien sûr, tout le monde va râler parce qu'il est parti, parce qu'il fait des super matchs, mais comme beaucoup de joueurs qui partent du Paris Saint-Germain, le problème du PSG, c'est que c'est le nectar. C'est-à-dire, c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Quel est l'intérêt pour Simons aujourd'hui, par exemple, on va prendre aujourd'hui, de revenir au Paris Saint-Germain? Il a prouvé qu'il avait sa place dans un grand club européen, parce que le PSV est un grand club européen. Mais on ne va pas se faire d'illusions. S'il revient au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, dans un an ou dans deux ans, alors à moins qu'il explose totalement, il n'aura pas sa place dans le club paillette qu'est le PSG, qui, même s'il perd Mbappé, récupérera je ne sais qui, mais un grand nom, un immense nom. Et donc, Simon sera voué à démarrer les rencontres sur le banc, parce que c'est l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc, quel est l'intérêt pour lui? Quel est l'intérêt pour le PSG aussi? Moi, je vois plus son avenir, effectivement, s'écrire dans un club entre le PSG et le PSV, mais même dans un grand club. Je pense à la Juve, mais même dans des grands clubs allemands, je pense à Leipzig, je pense même au Bayern Munich, qui a une autre politique que le Paris Saint-Germain. Mais le PSG, non. Et puis, mon dernier argument, c'est de dire que les retours, ça ne marche jamais. On parlait de Tolisso un petit peu avant dans cette émission. Les retours dans les clubs, ça ne fonctionne jamais. Alors, il y a des exceptions, mais généralement, c'est un théorème qui se vérifie assez facilement.
On peut aussi dire que, vu la saison qu'il réalise, et si ça continue comme ça, il y aura probablement beaucoup de prétendants l'été prochain, que Xavi Simons aura l'embarras du choix et que lui, contrairement à ce qu'on peut penser, il a vraiment la tête sur les épaules et son intention, c'est vraiment de jouer et de s'imposer dans un plus grand club. Il a suffisamment perdu de temps comme ça, donc je doute quand même que ce retour-là soit possible. La seule chose qui me fait douter, c'est que cette clause, a priori, est une clause Luis Campos, et que si Luis Campos a fait l'effort de négocier cette clause, c'est peut-être qu'il a une idée derrière la tête et qu'il tient notamment à sa superposition des postes avec des joueurs qui ne seront pas des titulaires, oui, mais qui vont apporter de la profondeur à l'effectif.
On peut prendre l'exemple d'Ekitike. On a tous dit ici que c'était une super idée. Ekitike qui fait une super saison l'an dernier avec Reims, dont on se dit qu'il a vraiment un truc en plus. Alors, il gagne un salaire mirobolant qu'il n'aurait pas eu ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, sportivement, il peut être heureux de son choix et critiquer? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tours de terrain à la fin du match. Donc c'était le cas après l'OM, où je le voyais s'échauffer sur la pelouse du Parc des Princes. Il mérite mieux que ça. Et je pense que Xavi Simons, pareil, il a un destin international qui va s'ouvrir à lui. Ce serait quand même dommage de tout gâcher. Mais on peut prendre des milliards d'exemples, des exemples de Draxler, les exemples de tous ces gars qui avaient bien plus prouvé pour le coup que Simons, qui sont arrivés pour s'enterrer à Paris. Il mérite mieux que ça, et j'espère qu'il espère mieux que ça.
Et puis on peut rappeler aussi que c'est l'écurie, l'entreprise Raiola qui gère ses intérêts, et qu'a priori, pour trouver une porte de sortie du même standing, ou en tout cas d'un très grand club, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes d'ici quelques mois.
Effectivement.
Voilà, on peut passer à la rubrique que vous attendez tous, qui risque de laisser des traces dans notre rédaction, c'est le Mercacuiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. C'est un grand moment de tension dans ce studio parce que là, c'est le match à ne pas perdre.
Grand moment de...
Je suis content de te retrouver.
De fébrilité, vous n'avez pas tout ce qui se passe dans le studio.
Ouais, heureusement d'ailleurs.
Vous n'avez pas l'énorme tension, l'électricité statique qui se dégage de ces deux compétiteurs. Parce que d'un côté, on a Julien, toujours invaincu. Cette saison.
Alias Toto Jap, quand même.
Pour sa belle chemise noire.
Ouais, tout à fait.
Et de l'autre côté, la chemise noire de Toto Wolff.
Ah, elle est bien.
Elle est blanche.
Pourquoi tu disais Toto Wolff alors?
Elle est blanche. Parce qu'il est insupportable.
Ah, d'accord.
Voilà,
il y a une bonne ambiance dans ce studio. Donc, d'un côté, Julien, et puis de l'autre, c'est les retrouvailles un petit peu. C'est Martin. Pionnier.
Le roi.
Pionnier du Mercacuiz. C'est la grande affiche qu'on attend tous. Voilà. On en a eu, tu me disais ça en off, Julien, des baltringues ces dernières semaines.
C'est un peu Real PSG là.
Non, le match de la semaine dernière était génial.
Alors, c'était un très beau match. Il faut dire qu'Arthur, voilà, c'est autre chose que
Cookie. L'homme dont on ne doit pas citer le nom.
Je vois pas de qui tu parles.
On salue Glenn en tout cas, on t'embrasse. Messieurs, vous connaissez le principe, mais je vais le rappeler quand même.
Oui, vas-y, pour nos amis. Fais tes lancements toi-même.
C'est long, je fais mes lancements.
Je t'en prie.
Le principe est très simple, je vais dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui trouve l'identité du joueur remporte un point au Merca Quiz Ranking. C'est la nouveauté de cette saison.
Qui est une grosse escroquerie, parce que moi je viens une fois tous les 6 mois.
Alors,
du coup,
voilà. Je travaille sur un coefficient.
Ouais, d'accord.
Je travaille sur un coefficient de victoire.
Donc moi je joue tout là.
C'est, voilà. Tu joues,
okay. Après, personne t'empêche de travailler plus, hein, Martin.
Non, c'est juste que j'ai d'autres choses à faire et vraiment je viens faire le Mercato Quiz quand j'ai rien à foutre de mes journées, tu vois.
Ah d'accord.
C'est
vraiment... Donc on est vraiment les bouche-trous, quoi.
C'est ça. Globalement,
ouais,
c'est ça.
Sympathique.
Ouais, c'est ça.
Et avant toute chose, la règle Pereira-Morin, la soumission. Je maintiens la soumission d'un nom avant le tout premier indice.
Par contre, s'il y a de la soumission, je viendrai un peu plus souvent faire le Mercato Quiz.
La vanne que personne n'avait osé faire la semaine dernière.
Voilà, exactement. Qui veut commencer?
Bah moi je l'ai donc.
Vas-y, je t'en
prie. Non, mais je laisse Jab du coup parce que moi je l'ai. Donc tu vois, ça va flinguer la séquence.
Et pour moi, ça sera Diego Carlos.
Ah alors, c'est pas du tout ça.
Non. Par contre, moi je l'ai parce que je sais que cette semaine c'est un gardien.
Ouais.
Parce que t'en fais jamais.
Ouais.
Matt Cels.
Pas mal, mais non. Ouais. J'ai fait un gardien cette saison.
Ah bon?
J'ai fait.
Ah, mais c'est que je vous écoute pas en fait. Excuse-moi, c'est voilà, juste ça, que je vous écoute pas.
Ah oui, c'est sympa.
C'est vrai. Ouais. Ah, c'était chaud d'ailleurs. Ouais.
Bon, bah vous êtes prêts, messieurs?
On est prêts. Eh
ben, on y va.
Plus que jamais.
Je débute ma formation à l'US Torcy, en Seine-et-Marne.
Paul Pogba.
Puis à Tours. Ma carrière démarre au cours de la saison 2007-2008. J'évolue en CFA pour le club de Châtel-Ordet, dans la Vienne, avec qui je dispute 27 matchs et marque 11 buts. Lors d'une rencontre entre mon club et l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, je suis repéré par les dirigeants parisiens qui m'engagent pour une saison.
C'est pas Diaby ?
Au cours de la saison 2008-2009, j'évolue donc avec l'équipe réserve du club parisien, toujours en CFA,
2011.
Où je marque 13 buts en 27 matchs, ce qui fait de moi le meilleur buteur de l'équipe. Les 6 derniers mois de mon contrat, je gagne le droit de m'entraîner avec le groupe professionnel, mais je ne dispute aucun match avec l'équipe première. De mon propre aveu, le fait de m'entraîner avec le groupe professionnel m'a
permis déjà donné une date
de beaucoup apprendre. Oui,
2011, ben je l'ai oublié.
Non, on est en 2008-2009.
Ah oui,
donc bienvenue dans l'émission, messieurs.
Oui, pardon. Donc les joueurs que j'ai donnés étaient... Enfin bref.
Ouais.
Toutefois, n'ayant aucune perspective de pouvoir disputer des matchs avec l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, je choisis de quitter
c'est
le club
carré
en fin de saison et signe en faveur du SCO d'Angers.
Ah!
Après 6 premiers mois difficiles, je m'impose peu à peu comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe angevine. Au cours de la saison 2010-2011, mon club se hisse en demi-finale de la Coupe de France, me permettant ainsi d'affronter le Paris Saint-Germain, mon ancien club. Le SCO s'incline 3 buts à 1, mais je considère toujours ce parcours comme le plus beau souvenir de ma carrière.
C'est le grand qui joue Red Star, là, non ?
Je suis honoré en septembre 2011 en étant élu joueur du mois de Ligue 2 par les journalistes et les supporters. En juin 2012, après 3 saisons passées au SCO d'Angers, je signe à Montpellier afin de pouvoir évoluer en Ligue 1, mais également en Ligue des Champions. Je dispute mon premier match de Ligue 1 en août 2012 contre l'Olympique de Marseille à la Mosson.
Montpellier.
En octobre, je dispute mon premier match européen et marque mon premier but en Ligue des Champions face à l'Olympiakos. Mais en concurrence avec Emmanuel Herrera, je ne joue que 26 matchs en Ligue 1. Je décide de changer de club dès la fin de ma première saison dans l'Hérault, à l'été 2013. Je signe un contrat avec le Stade de Reims, alors en Ligue 1. Oh. Je justifie mon choix.
Ça m'a éloigné là.
C'est pas la grosse carrière là.
Sachant que je n'aurai pas beaucoup de temps de jeu à Montpellier.
Ah.
Pour ma première saison à Reims, je dispute 33 rencontres et marque 5 buts. J'enchaîne la saison suivante en marquant 7 buts pour 35 matchs disputés.
Ah, quand même.
Et oui.
Juste avant, en off, Martin nous a dit que la Ligue 1, c'était son point fort.
Ouais, ça devient gênant.
Ça commence à se voir.
Reims, c'est pas de la Ligue 1.
Oh,
c'est dur.
Ma troisième saison est plus compliquée. Au mois de janvier, le club m'invite à m'entraîner avec la réserve.
Ah ouais. Mais attends, prends des joueurs professionnels. C'est quoi ces mecs que tu nous sors là?
Plusieurs clubs s'intéressent à moi, mais finalement, je reste à Reims.
Et merde.
Je finis la saison avec 5 buts marqués et 23 matchs disputés.
Je suis trop loin.
À la fin de la saison, le Stade de Reims est relégué en Ligue 2.
Là, dans la tête, j'ai évidemment.
Je reste à Reims pour honorer ma dernière année de contrat. Pour mon retour en Ligue 2, je marque 5 buts et dispute seulement 20 matchs. en fin de contrat au Stade de Reims, je signe...
Non, arrête. Arrête, Omé.
Je signe au Stade Brestois. Pour ma première saison, je marque 11 buts en 28 matchs. Je remporte le trophée UNL.
Charbonnier. Charbonnier. Oui. Charbonnier.
Ah, Gaëtan Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, là...
C'est victoire.
La star...
Oui, c'est Charbonnier, bien sûr. C'est Charbonnier. Star. Bah oui, Montpellier. Bah,
oui, la star.
Par contre, je ne savais pas qu'il était formé à Tours et Torcy, tout ça.
Oui.
Charbonnier. Jap, quelque chose à dire peut-être, quelque chose à...
Ah là c'est dur.
Ah là c'est Paglen, quand c'est Paglen c'est plus dur là. Hein.
Je pense que je l'aurais pas eu avant avoir un bon petit
C'est... Mais c'est comme le PSG, quand il joue contre Ajaccio c'est facile. Après quand il joue contre le Real Madrid c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois.
La journée va être très longue.
C'était le...
Et où joue-t-il aujourd'hui Gaëtan Charbonnier?
À Auxerre.
Eh bien bien sûr, à la JOCR.
C'est bien Jap. Eh ben... C'est bon, on peut pas lui donner un petit point quand même. Un petit point de consolation, un petit truc. Attends, c'est super, tu vois, bravo.
C'est un bon camarade.
Et Angers, je l'avais pas non plus.
Angers,
mais t'avais rien, j'ai l'impression.
Trois saisons.
De toute façon, là, t'avais rien, donc.
Ça va être long.
C'est pas la peine de nous. Tu vois, de rebondir, t'avais rien.
C'est un carnage.
Je vais rentrer chez moi.
Bravo, Martin, en toute modestie.
Comme d'habitude.
Là, je vais manger, mais tranquillement. Ouais. Je vais bien digérer, petite sieste. Je vais être bien tout le week-end. Quentin, je peux te faire un petit bisou?
Avec plaisir.
Un petit bisou.
Ouais, bah, allez-y.
Ça me fait plaisir.
C'est mon bonheur.
Allez, on met fin
je reviens
à cette émission.
Quand vous voulez, je reviens quand vous voulez, en tout cas.
Merci Martin, merci Quentin, merci Adrien, merci Théo qui était notre public d'un jour.
Tout à fait.
On se retrouve nous comme d'habitude.
Théo, tu fais
prochaine.
Quoi les mercredis la prochaine fois? Parce que Jap, je sais pas trop à quoi il sert. Donc si tu veux venir tous les mercredis participer au Merca Quiz, bah qui est un petit, tu vois, qui est un petit challenge. Un petit challenge.
Il est temps que je récupère Glenn.
Tu nous manques Glenn, on t'embrasse, reviens vite.
Allez, merci à tous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.